Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les élèves du premier du lycée Guy Mollet d'Arras. Nous allons aujourd'hui vous parler de l'égalité homme-femme. Depuis 1946, l'égalité femme-homme est un principe constitutionnel. La loi garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Néanmoins, les avis diffèrent sur ce vaste sujet. Je m'appelle Ali, j'ai l'honneur de présenter cette émission aujourd'hui. Pour commencer, nous avons réalisé un micro-trottoir dans le centre-ville d'Arras.
Pensez-vous qu'aujourd'hui que l'égalité homme-femme est respectée en 2024 au sein de l'Europe ?
Non, elle n'est pas respectée encore.
Non, pas vraiment.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différences dans les salaires, notamment avec les hommes et les femmes. Moi, je trouve qu'il y a eu une évolution ces 20 dernières années.
Non, il y a encore beaucoup de différences dans les salaires, dans les anciennes générations de l'appréciation du rôle de la femme dans la tenue du domicile et compagnie, la relation avec les enfants. Il y a encore de grosses différences.
On en est loin. Quand on voit dans les entreprises, déjà, moi je travaille dans une entreprise de l'automobile, où en effet on a très peu de dames qui sont encore attirées par l'automobile, et puis aussi parité au niveau des salaires. Je pense qu'à un poste égal, une dame gagne beaucoup moins qu'un homme.
Bof, très moyen, pas partout.
Bah, écoutez, non, regardez, vous n'avez que des filles
là. Non, pas vraiment.
Non, non, non. Un peu, mais pas, c'est pas excessif, ça devrait être plus.
Non, je pense pas.
Ça dépend sur quoi on se fixe.
Un petit peu, oui. Pas tellement, mais un petit peu.
Non, pas du tout. Et c'est malheureux d'ailleurs. On devrait aujourd'hui avoir la même égalité.
Oui, en majorité, oui, quand même, oui, oui. Pourquoi au niveau travail, etc., bon, les femmes peuvent quand même faire tout ce qu'elles veulent maintenant.
Selon vous, est-ce que les tâches ménagères sont bien réparties ?
Non, parce qu'il y en a, ils pensent que c'est les femmes qui doivent le faire parce que ça a été fait depuis hyper longtemps.
Ça s'améliore avec la nouvelle génération, ça reste difficile avec ma génération, par exemple.
Non, non, bon, moi je l'ai fait, mais tout le monde ne le fait pas. Hein, voilà.
Pas encore tout à fait bien. Il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là.
Oui, dans les couples modernes, je pense que oui. Et même dans les anciens couples, ça commence à être à la mode.
Chez moi, oui, mais je ne sais pas si... je pense que chez les plus jeunes, oui. Mais chez les gens de ma génération qui ont 60 ans, c'est pas toujours très bien réparti.
Non, c'est moi qui fais tout. Ça va plus vite.
Pas vraiment.
Ah, chez nous, oui. Mais après,
nous, oui,
chez
mais
nous, oui.
On voit qu'ailleurs, pas vraiment. Ouais. Mais nous, oui. On est vieux, on a 48 ans de mariage.
Alors pour ma part, je dirais non. Maintenant, j'espère que votre jeunesse, les plus jeunes peut-être aujourd'hui, prennent plus part, en effet, aux tâches ménagères que ma génération.
Je pense qu'encore une fois, ça dépend des générations et aussi du milieu social.
Ça dépend chez qui ? Ça dépend. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent les pieds sous la table et les femmes qui savent tout le boulot. C'est pas normal.
Ah non, moi à la maison, c'est moi qui fais tout.
Vous, madame ?
Si, elles sont bien réparties. Peut-être pas partout, mais chez nous, elles sont bien réparties.
Je pense que dans certaines familles, oui, il y a bien l'égalité, mais je vois dans certaines familles, il n'y a peut-être pas cette égalité-là, parce qu'ils n'ont pas, peut-être les hommes, ils n'ont pas, en regardant leur propre famille, qu'ils n'ont pas vu cela chez eux, et donc ils pensent que c'est normal que les femmes y fassent tout.
Souvent, c'est plutôt les filles et les femmes qui font tout.
Il y a encore beaucoup de tâches ménagères qui sont effectuées par les femmes. Enfin, les hommes quand même mettent la main à la pâte maintenant. Oui.
Que pensez-vous de l'inégalité dans le sport ?
Il faut que ce soit pareil au même niveau. Hein. C'est comme les salaires, hein, c'est pareil, il faut que ce soit pareil.
C'est peut-être que les femmes sont moins endurantes que les hommes, peut-être ?
Par rapport à la télé aussi ?
À part le foot, il y a beaucoup de sports qu'on ne voit pas bien. Hein. Comme la danse, par exemple.
Alors là, c'est un peu plus compliqué pour moi, parce qu'il y a des sports qui sont un petit peu plus masculins que féminins, et il y a des sports qui sont un peu plus féminins que masculins.
Quels sports sont masculins ?
Le rugby, pour moi, est un sport masculin, la boxe anglaise est un sport masculin, et puis la danse classique, plutôt, pour moi, féminin. La gymnastique est plutôt féminin.
En moyenne, les hommes sont plus grands en taille. Donc vraiment, je pense que physiquement, il doit y avoir des équipes différentes.
Je trouve que par exemple, si on prend le football, on va plus mettre en avant les matchs masculins que la Coupe du Monde féminine, par exemple.
Dans le foot, les filles, elles sont moins payées que les garçons.
Pourquoi il y a des catégories hommes-femmes ?
y a moins de spectateurs dans les matchs de foot féminin?
Ben moi, personnellement, je ne suis pas une grande sportive, donc ça ne me tracasse pas beaucoup.
D'après vous, pourquoi l'égalité homme-femme n'est pas toujours respectée?
Parce que les femmes se débrouillent mal, peut-être.
Je pense que c'est parce qu'on a toujours minimisé la femme.
Mais ça dépend dans quel secteur d'activité. Par exemple, dans la restauration, on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes, je pense. En cuisine, par exemple, on voit beaucoup de femmes maintenant. Après, dans les métiers comme le bâtiment, tout ça, c'est vrai qu'on commence à en voir, mais c'est un métier pénible, donc on en voit moins.
Parce qu'il reste encore du chemin à faire, notamment de l'explication, et puis aussi une prégnance d'une certaine partie de la société sur des idées qui datent un peu.
Parce qu'il y a d'anciennes traditions qui déterminaient le rôle de la femme et le rôle de l'homme, et qui sont des traditions desquelles on a beaucoup de mal à sortir.
Parce que je pense qu'on reste encore dans une société très patriarcale et que tant qu'on n'aura pas poussé une de ces portes, nous les dames, et ben malheureusement, oui, la parité ne sera pas de mise.
Oh, ça doit être une question d'usage, de... C'est les arriérés qui restent, en fait, hein, je pense.
Puisque les hommes ont toujours une ancienne... Enfin, la mentalité d'avant, où les femmes, elles étaient méprisées, ils n'arrivent pas à changer dans cette optique-là.
Oh, bah ça... Le grand et longue histoire. Puis nous, les femmes, on a un grand rôle. Il ne faut pas qu'on attaque trop fort. Il faut qu'on soit douce pour gagner du terrain.
Non, mais c'est à cause de croyances au niveau de la société. Enfin, de la société qui est faite comme ça, qui a toujours été patriarcale jusqu'à maintenant. Donc c'est difficile de changer les choses.
D'après moi, c'est par rapport à l'histoire qu'on a vécue et au fait que les femmes sont moins fortes que les hommes, soi-disant. Et c'est parti de là.
Oh, j'en sais rien, parce que les mecs ils se prennent pour des machos, ils se prennent pour des cons.
Maintenant, on poursuit avec un débat accompagné de Janelle, Valentin, Margot, Lou et Fanny. Ils confrontent leur point de vue sur l'égalité homme-femme afin de savoir si celle-ci existe. Salut Lou.
Salut Ali.
Toi qui es une fervente défenseuse de l'égalité homme-femme, penses-tu qu'elle est respectée de nos jours?
Alors non, pour moi elle n'est pas respectée de nos jours, car l'égalité homme-femme est un principe de traitement égal et de non-discrimination basé sur l'apparence à l'un ou l'autre genre. Aujourd'hui, trouvez-vous que cette égalité est respectée dans le monde du travail?
Nous savons dans un pourcentage de Français que le salaire des femmes est de 25,7% de moins que les hommes et dispose d'un travail à temps partiel de 80% pour les femmes.
Oui, mais dans les études supérieures, les femmes sont diplômées à 55% contre 45% pour les hommes.
Les femmes ont des postes moins bien placés que les hommes. À un bout extrême, les femmes peuvent mentir sur leur sexe pour se sentir égales aux hommes.
Je vais vous dire un fait choquant. Seulement en 2014, la loi du droit pour porter un pantalon pour les femmes a été approuvée.
Oui, mais au moins, elles peuvent porter un pantalon.
Cependant, avant, elles devaient porter des robes ou des jupes pour justement faire plaisir à leur mari.
Oui, mais elles, les 39, veulent revenir à l'époque des jupes. Le mouvement 39 est un mouvement réactionnaire, prenant le retour d'un rôle de la femme mariée comme femme soumise à son mari. Le mouvement encourage les femmes à dédier leur vie à leur famille et leurs enfants.
Par exemple, une femme nommée Estee Williams, américaine, devenue femme au foyer car la société et le monde du travail ne lui convenaient pas. Elle dit « La société veut que je travaille pour quelqu'un de 9h à 17h. Mais ils n'ont pas compris que mon mari travaillait pour moi. »
Mais devenir tradwife est un choix. Comme la décision des tâches ménagères, les femmes se retrouvent plus souvent à faire le ménage et la cuisine.
Actuellement, de plus en plus d'hommes s'investissent dans les tâches ménagères.
Trouvez-vous ça normal que les femmes paient pour leur protection hygiénique?
Je trouve ça inadmissible que les femmes payent pour quelque chose qu'elles n'ont pas désiré. Cela devrait être donc gratuit, comme les préservatifs par exemple.
Oui, sur ce point, on est d'accord. Mais après les préservatifs, si ce n'était pas gratuit, beaucoup de jeunes filles seraient tombées enceintes très tôt.
Et vous oubliez les garçons qui partent et qui laissent leurs copines seules ou rencontrent du soir avec un enfant. Comme si la femme devenait un objet, qu'on peut l'abandonner. L'hypersexualité est bien présente. Là oui, cela a bien un nom, qui n'est pas plaisant à en parler et même qui ne devrait pas exister.
Un autre point qui est aussi important pour moi, les différences d'âge dans un couple. Des termes et même des mots grossiers sont utilisés pour représenter les femmes. Les femmes qui sortent avec des hommes plus âgés ne pensent pas à l'amour mais à l'argent. Ou encore, une femme qui sort avec un homme plus jeune devient automatiquement une cougar et donc une femme qui veut se sentir plus jeune. Dans ces cas-là, les gens ne parlent pas d'amour.
En continuant sur cela, trouvez-vous normal qu'une femme frivole soit considérée comme sale ou irrespectueuse tandis qu'un homme frivole est considéré comme un exemple et même un mérite ?
Cet acte de frivole n'est pas un mérite pour tout le monde, mais un acte dont personne ne devrait en parler.
Et j'aimerais terminer le débat par le point positif. Il existe pour les deux sexes la création d'un jour pour les droits des hommes et des femmes, qui nous montre bien l'importance des deux sexes dans la vie.
Oui, vous m'avez convaincu avec tous ces exemples dits. Nous pouvons voir qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas atteint l'égalité homme-femme.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Poursuivons avec Lilou qui a interviewé sa grand-mère pour connaître son point de vue de l'égalité homme-femme de son époque.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité homme-femme à travers le temps. Nous sommes allés voir Mamie Minu pour répondre à nos questions. Pour commencer, pourquoi le rose est-il aussi mal vu lorsqu'il est porté par les garçons ?
Parce qu'à notre époque, le rose était absolument que féminin. Un homme qui portait du rose comme couleur n'était pas très très bien vu. On le lui disait souvent qu'il était très efféminé.
Pourquoi ?
Parce que le rose ne se portait pas. Et ce n'était pas du tout les couleurs pour les hommes.
Mmh. Quelles étaient les couleurs pour les hommes ?
Ben, beaucoup de bleu, bleu marine, marron et noir.
D'accord. Comment as-tu perçu d'être une femme dans les années 50-70 ?
Dans ces années-là, faut dire que les femmes n'avaient pas beaucoup le droit à la parole. Une femme était considérée, la plupart, je ne dis pas toutes, mais c'était s'occuper des enfants, le ménage, souvent gérer la maison. C'est les seules choses qu'on avait le droit. Maintenant, cela a bien, bien évolué.
Et pourquoi ?
Parce que les femmes ne se laissent pas faire du tout. Mmh. Elles ont autant de droits que les hommes.
As-tu remarqué une évolution sur les hommes et les femmes ?
Alors, à l'heure actuelle, je trouve que les hommes participent beaucoup plus, que ce soit pour les enfants, l'aide à leur ménage, font les courses, et les femmes font du sport, se prennent du bon temps pour elles aussi. Je trouve que c'est quand même un juste milieu.
Avant, les femmes ne prenaient pas soin d'elles.
Une femme qui aurait fait du sport tout seul aurait été mal vue.
Ah bon ?
Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui autorisaient. Hein. Ah non.
Comment perçois-tu l'égalité homme-femme de nos jours ?
Alors, pour les femmes, je pense que c'est mieux. Il y a encore des choses à voir au niveau du salaire aussi. Par contre, je trouve que les hommes de mon époque, donc des années 50-70, l'égalité, c'est quand ça les arrange. Parce que quand vous leur demandez un service, automatiquement, ils vous répondent que vous pouvez le faire car on a demandé l'égalité. C'est ça la mentalité de certains hommes. Mais heureusement, même les femmes de notre époque, on ne se laisse plus faire.
Merci mamie pour cette interview, nous avons appris plein de choses.
Ah, merci beaucoup Lilou pour cette magnifique interview. On enchaîne avec une deuxième interview proposée par Manon et Chloé qui vont s'interviewer en direct entre elles.
Manon, comment perçois-tu l'égalité homme-femme de nos jours ?
Les inégalités homme-femme, on essaye de les diminuer, mais elles sont loin d'être disparues, que ce soit au travail ou encore à la maison. On n'entend pas encore l'égalité homme-femme. Encore en France aujourd'hui, les femmes ont de plus grands congés maternité que les hommes. La femme sacrifie donc sa carrière pour élever ses enfants. En Suède, il y a une répartition plus équitable des congés maternité, car les parents ont le choix de la répartition de ces congés.
Penses-tu que l'on débat suffisamment pour l'égalité homme-femme ?
Les personnes qui soutiennent cette cause sont super investies, mais la société ne s'intéresse pas réellement à cela. On en parle dans les médias, à l'Assemblée. Pour moi, cette cause est clairement de côté. Si on débattait suffisamment de l'inégalité homme-femme, elle n'existerait plus. Comme par exemple dans l'affaire Depardieu, où les paroles ne sont pas accompagnées d'une sanction à la hauteur du crime commis.
Est-ce que pour toi, de nos jours, être une femme, c'est pouvoir choisir sa voix, affirmer ses préférences et ses opinions de la façon la plus libre qui soit?
Pour moi, de nos jours, une femme doit être libre de ses choix, sans qu'une personne, sans qu'un homme vienne la contraindre, lui dire ce qu'elle doit faire. Certes, la liberté absolue n'existe pas, mais une femme, aujourd'hui, comme l'homme, avec des contraintes égales, peut prendre des décisions qui, pour elle, semblent être justes et qui lui conviennent. Comme par exemple Eve Gilles, Miss France 2024, qui subit des critiques à cause de sa coupe de cheveux, dite trop masculine. Beaucoup d'internautes qui souhaitaient voir Miss Guyane ou encore Miss Provence remporter le concours s'en sont pris à son physique. Sa silhouette est dite trop maigre et longiligne. Son style trop masculin et androgyne. Et toi Chloé, penses-tu qu'une femme sera enfin égale à l'homme ou sera-t-elle obligée d'être supérieure à celui-ci?
Je pense que si on imagine plus de solutions, si on fait preuve de solidarité et qu'on prend conscience de ce problème de manière plus importante, on pourra toujours arriver à améliorer la situation. Mais malheureusement, on ne retrouvera pas une égalité parfaite entre les femmes et les hommes. Dans le futur, j'imagine que la femme ne sera pas obligée d'être supérieure à l'homme, car je l'espère, elle obtiendra plus d'égalité. Mais en tout cas, elle sera, entre guillemets, au même niveau d'égalité que les hommes.
Penses-tu que plus tard, une femme aura enfin un grand rôle dans la politique, voire même être présidente?
Je pense que oui, car elles auront eu la force et le courage de prendre certaines choses en main, grâce au parcours et aux actions qui auraient été accomplies. Peut-être qu'une femme présidente permettra d'encore mieux défendre cette cause. Elle apportera une France plus féminine et féministe. Et même, peut-être qu'une femme au pouvoir peut nous surprendre dans la manière de diriger le pays.
Plus tard, crois-tu qu'il y aura encore des handicaps à être une femme? Si oui, lesquels?
Si la société évolue différemment par rapport à ce problème d'inégalité, être une femme ne sera plus vue comme un genre de handicap. Nous savons qu'aujourd'hui, pour certains, être une femme est considéré comme un handicap. Mais c'est totalement faux. Peut-être que demain, on arrêtera certaines discriminations. On arrêtera de payer différemment les hommes et les femmes, pour une même qualification par exemple. En tout cas, on attend des changements et on va tout faire pour qu'ils puissent se réaliser.
Elsa et Elisa vont nous parler des fameux produits discriminants. Qu'avez-vous à nous présenter?
Nous n'avons pas été interviewer une experte de la taxe rose, mais une cliente pour échanger sur son expérience.
Nous avons interviewé Madame Serra, professeure au lycée Guy Mollet. Nous lui avons demandé ce que sont le... Nous lui avons demandé ce que, selon elle, signifie la taxe rose.
Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas, une taxe qui désigne quelque chose de plus féminin que de masculin, je ne sais pas.
La taxe rose est le fait qu'au magasin, un article qui est rose, qui est dit féminin, est plus cher qu'un article dit masculin, qui est donc pas rose. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle taxe rose.
Avez-vous plusieurs exemples d'articles qui subissent la taxe rose?
J'imagine que les vêtements font partie de cette taxe.
Que mettriez-vous dans la taxe rose parmi ces articles? Des lunettes, des pâtes, des biberons, des médicaments et des livres.
Les lunettes, très certainement. Pour les autres, médicaments, non, pas trop. Je vois pas la différence, mais des lunettes.
Il y a des lunettes, des biberons et des médicaments qui sont sous la taxe rose.
Voyez-vous une différence des prix sur les articles dits féminins et masculins? Au magasin?
Alors non, mais je me suis jamais intéressée à la question puisque je ne connaissais pas l'existence de cette taxe. Mais je vais regarder du coup maintenant.
Selon vous, à environ combien de pourcents les vêtements pour femmes sont-ils plus chers que ceux des hommes?
10% plus chers.
À environ 7 ou 8%.
Avez-vous déjà acheté des articles dits masculins car c'était moins cher que ceux des femmes?
Non, là non.
Est-ce que vous y ferez plus attention après cette interview?
Bah oui, la curiosité me pique, donc je vais aller m'intéresser à cette taxe rose.
D'après vous, comment pourrons-nous améliorer l'égalité homme-femme dans le domaine du marketing?
En supprimant cette taxe, de ce fait, on peut commencer par là. Après, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste du marketing.
Avec les pubs, par exemple, ou les magazines?
Oui, peut-être utiliser des codes couleurs différents dans les publicités qui tendent moins vers le masculin ou le féminin.
Merci les filles. On se retrouve juste après cette courte page de publicité. Vous êtes à la recherche du cadeau idéal? Loana et Manon vont vous faire la promotion du livre Les Impatientes de Djaili Amadou Amal.
Ce livre réaliste expose la situation des femmes dans la société camerounaise. Djaili Amadou Amal est une autrice camerounaise et une militante contre le mariage forcé, la polygamie et le viol conjugal. Son livre, traduit dans une vingtaine de langues, a reçu le prix Goncourt des lycéens 2020. Son titre était auparavant Mounial, qui signifie patience. Par la suite, il change pour les impatientes. Ce titre reflète l'idée que ces femmes, malgré le système patriarcal qui les oppresse, ne veulent pas se soumettre et restent des femmes fortes qui cherchent à se libérer. Née en 1975, Djaili Amadou Amal est forcée de se marier à 17 ans. Elle quitte son mari en 1998 après 5 ans de vie commune. 10 ans après, elle quitte son second mari, qui lui était violent. Au moment de leur rupture, son ex-mari kidnappe ses deux filles par vengeance. Elle écrit ce livre alors pour dénoncer les discriminations que subissent les femmes. Djaili Amadou Amal dit « Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, je voulais surtout apporter une réflexion sur les différentes facettes de violence faites aux femmes. »
Son livre « Les Impatientes » est un roman autobiographique qui aborde avec subtilité et émotion les thèmes complexes du mariage forcé et des conditions de vie des femmes dans certaines sociétés africaines. On suit les histoires de trois femmes. Celle de Ramla, 17 ans, obligée par sa famille de se marier à un homme riche et beaucoup plus âgé, qu'elle n'aime pas. Hindou, la sœur de Ramla, qui épouse son cousin, qui la viole quotidiennement, et de Safia, qui doit lutter pour garder sa place de première épouse dans un mariage polygame. Ce livre nous a fait beaucoup réfléchir. Lire ce roman est une expérience intense que nous vous conseillons. Nous avions quelques connaissances sur les fortes discriminations subies par les femmes dans les pays d'Afrique, mais comme tout le monde, nous n'avons jamais pensé à en savoir plus. L'autrice nous a ouvert les yeux sur une réalité éloignée que l'on ignorait jusqu'à présent. Ce livre nous a laissé sans voix. Je me rappelle d'un moment du livre qui m'a fortement marquée. C'était quand la famille d'une de ces trois femmes l'a violemment fouettée pour la punir d'avoir tenté de fuir. Le motif de sa fuite était dû à la violence dont elle était victime par son mari. Lui n'a reçu seulement qu'une mise en garde alors qu'elle a subi quelque chose d'inqualifiable juste parce qu'elle a voulu être libre.
Nous pensons que pour vivre sans regret, on devrait avant tout être libre de vivre comme on veut. La chose la plus triste, c'est que la plupart des femmes ne peuvent pas prendre en main leur vie et sont contraintes de vivre la vie qui a été décidée pour elles par leur famille, comme Hindou par exemple. Ce livre nous a beaucoup fait réfléchir. On se demande si ce qui se passe est légal. Peut-on se considérer chanceuse de ne pas être née dans cette société? Ce n'est pas une lecture légère, mais elle est nécessaire si nous voulons mieux comprendre la vie et ce qui se passe dans le monde. De ne pas seulement penser à nous et à notre petite vie, mais aussi à celle de ces femmes et réaliser la chance que l'on a.
Nous vous conseillons ce livre. Si vous voulez faire de nouvelles découvertes et connaître des nouvelles facettes de la vie que vous ignorez auparavant, et si vous voulez voyager à travers une histoire qui pourrait bien changer la perception que vous avez aujourd'hui de la vie et de la société.
Merci d'avoir écouté PFM. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours sur les réseaux. À bientôt.